vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Son manteau qui donne le domestique qui va mettre sur le panteau du hall d'entrée. Et pendant que Jules va au salon, le domestique monte les bagages à sa chambre.
Entrez!
Sa mère est assise et lit le journal. Lorsqu'elle le voit arriver, elle se lève pour aller vers lui.
Comment, tu es de retour ?
Oui, mère. Ils s'embrassent. Elle lui dit,
tu aurais dû me prévenir.
Il lui dit, c'est-à-dire que notre départ s'est fait un peu précipitamment. Faisait tellement mauvais temps que j'aurais préféré partir. Sylvain est guéri, il se porte comme un charme. La dégradation du temps l'aurait peut-être fait rechuter. Tu sais, la montagne, c'est beau l'été, mais l'hiver, c'est infect.
Tu as raison d'être revenu. Ton père sera heureux de te revoir. Pour la rentrée prochaine, il t'a trouvé une place de professeur au lycée privé Saint-Michel. Te fais pas de soucis. Il aura le temps de t'expliquer tout ça.
Ta sœur est de retour.
Hein? Elle est en visite? Non, elle est revenue définitivement. Elle est veuve. En fait, il lui est arrivé une chose horrible.
Jules sourit et lui dit, je plains le mari.
Tu n'y es pas du tout. C'est elle qui est à plaindre.
Je t'expliquerai tout ça. Une histoire très regrettable. La pauvre petite a beaucoup souffert.
Jules a vu sa sœur qui lui a raconté son histoire et après le dîner, elle s'est assise à côté de lui au salon et lui a demandé « Et Sylvain, comment va-t-il ?»«
Eh bien, je te remercie. Je croyais que tu ne t'intéressais pas à lui. » Elle lui répond je trouve gentil. Jules se dit que sa sœur va chercher à séduire Sylvain et va le lui prendre et lui retournera sous sa coupe. Elle retombera amoureuse d'elle. Le danger vient de là. Il ne faut pas qu'il se voie. Il lui dit, « Sylvain t'a complètement oublié et je crois que tu ferais mieux de chercher ailleurs. » Elle lui dit, « Mais je ne suis pas pressé. Je viens de retrouver ma liberté et je tiens à en profiter. » Les jours passent. Jules a vu son père qui lui a parlé de la place de professeur et ce sera pour la prochaine année scolaire. En attendant, Jules essaye d'écrire. Il cherche une histoire romanesque entre deux garçons. Il sait que le sujet doit être traité avec délicatesse à cause de son côté particulier. Bien sûr, les héros seront lui et Sylvain. Un soir, à sa table de travail, dans sa chambre, il se dit « Il faut que c'est l'air d'un conte et que ça se passe dans l'irréalité. Dire que ce sont deux amis d'enfance, comme cela leur intimité paraîtra moins immorale. » Il commence à résumer grossièrement son histoire. Deux amis d'enfance, Yves et Gilles, vont vivre à la montagne parce qu'ils sont nobles et que la révolution gronde à Paris. Ils sont recherchés comme tous les aristocrates. Yves et Gilles ne veulent pas quitter la France parce que s'ils disent que c'est leur pays et que son pays, dans les bons ou dans les mauvais jours, on doit y rester. C'est comme si l'on était marié à une personne pour le meilleur et le pire. Ils ont tous deux les mêmes idées politiques, se sont connus depuis toujours et Yves ne peut se passer de Gilles. C'est comme s'ils étaient une partie de lui-même. Tout enfant, leurs parents étaient amis. Ils étaient souvent ensemble et ont souvent dormi dans le même lit. Même à l'âge adulte, cela leur arrive. Yves est habitué à la peau de Gilles, son odeur, sa douceur. Yves et Gilles se connaissent à fond et n'ont pas de secret ni pour le corps ni pour le cœur. Ils vivent retirés en montagne, isolés de tout. Cette année-là, l'hiver est de plus en plus froid, il gèle. Un après-midi, ils trouvent dans une grotte où ils sont abrités une jeune fille d'une extraordinaire beauté prise dans un bloc de glace. Elle est allongée et semble dormir. Gilles veut tout de suite la prendre et la sortir du bloc où elle est. Yves lui dit que ce n'est pas possible. Elle doit être morte de froid. Mais Gilles tient bon. Cette entêtement ne plaît pas à Yves. Il y voit un danger. Puisque Gilles le veut, ils amènent le bloc de glace chez eux, tiré par des cordes et glissé sur le sol gelé. Une fois chez eux, ils décident de le mettre dans une des chambres. Ils mettent à terre des tissus et posent le bloc dessus. La belle endormie n'a pas bougé. Yves lui dit qu'elle ne se révélera jamais qu'ils ont amené un cadavre pris dans un bloc de glace. Les jours passent, les deux amis vont voir la femme endormie. La glace petit à petit fond. Yves voit que Gilles n'est plus le même. Il fait moins attention à lui, vit comme dans un rêve. Yves voit que Gilles reste de plus en plus longtemps près de la femme sous la glace. Lorsqu'il est près de lui, il voit que son visage est comme hypnotisé par la femme. Cela énerve Yves. Il a peur de perdre son ami. Et au fur et à mesure que la glace fond, il prend peur car il se dit « si elle allait revenir à la vie, Gilles ne vivrait que pour elle. » Cela le rend malade. Gilles
Gilles ne fait plus attention à lui. Il pense qu'à la femme. Il a peur et reste le plus souvent près du bloc que de glace. Il ne sait pas si elle prend, si elle reprend vie. La glace fond à vue d'œil. Gilles est de plus en plus excité. Yves a de plus en plus peur. Il se dit, je dois faire un geste pour préserver notre amitié. Un matin, il est seul dans la chambre. Il ne reste plus qu'une mince couche de glace sur le corps. Cette couche fond petit à petit. Yves tremble. Il lui semble que la femme remue un peu. Elle est en vie, pense-t-il. Il faut que je le fasse. Il prend son épée qui tenait près de lui et l'enfonce dans la poitrine de la femme qui ne réagit pas. Son visage, ses lèvres sont blanches comme la neige. Au fur et à mesure qu'elle a fondu, elle a perdu ses couleurs. La porte s'ouvre et Gilles apparaît. Il voit l'épée de son ami dans la poitrine de la femme. Il pousse un cri. « Pourquoi tu fais ça? Tu l'as tué !» Et il se sauve en courant. Yves lui court après et lui crie « Elle était morte! Je te jure que j'ai tué une morte !» Gilles se sauve en courant. Sort dehors. Yves le suit. Gilles court. Yves le perd. Il marche au hasard pour le retrouver. Plein de remords, il pense qu'il l'a perdu, qu'il a perdu son amour. Il le cherche pendant des heures et des heures. La nuit a tombé, il fait de plus en plus froid. D'épuisement, il s'allonge dans une grotte. Il grelotte et le froid le prend. Il ne peut plus penser. Il est comme paralysé. Son corps se raidit et petit à petit, il perd conscience. Gilles, qui l'a cherché, le retrouve au petit matin dans un bloc de glace. Gilles pense que c'est sa punition et décide de le laisser ainsi. Des jours plus tard, et même des mois, alors qu'il se promène dans la forêt, il se trouve face à face avec ce qui a été son ami, blanc comme la mort. Cette rencontre lui fait peur et se met à courir dans la forêt. Il court et à chaque fois qu'il tombe sur son ami, à un carrefour, il est entouré de glace, de blocs de glace qui reflètent son image. Il panique, court dans tous les sens et tombe sur son ami. Il est comme pétrifié. Il tombe à la renverse. Les blocs de glace se sont fermés sur lui et sur son ami. Voilà, Jules a fini son résumé. Il va pouvoir écrire en décrivant bien les rapports des deux amis. Jules, comme à son habitude, écrit surtout la nuit. La journée, il se promène. Il a laissé Sylvain reprendre ses habitudes et ne l'a pas dérangé pendant 2 semaines. Puis Sylvain est venu le chercher. Ils ont recommencé leur rendez-vous pour le théâtre, concert ou discuter chez Sylvain. Apolline parle peu de Sylvain. Elle reste discrète et n'est pas sûre de le vouloir. Le temps passe. Jules a fini d'écrire son roman. Il cherche un éditeur. On lui dit que c'est trop bien écrit et trop romantique, fantastique. Les gens veulent des histoires d'amour modernes. Jules ne se démoralise pas, il continue à le présenter. Il fait lire son roman à Sylvain, qu'il a trouvé très beau, d'un romantisme élégant. Il demande à Jules, dans sa chambre, c'est notre séjour en Suisse qui t'a donné l'idée de cette histoire ? Jules lui dit, oui, en partie. Sylvain lui dit, tes deux héros ont un comportement bizarre ensemble. Cela paraît difficile à croire, cette amitié trop forte. Cela ressemble à des héros de vieux romans. Jules est triste et lui dit, tu ne crois pas à une amitié comme celle-là ? J'y crois pas vraiment. Elle a un côté féminin qui me gêne un peu. Jules est de plus en plus triste. Son ami vient de lui dire, sans qu'il s'en rende compte, qu'il refuse son amitié.
son amour. Sylvain le voit triste et lui dit : Ne sois pas triste, je t'ai pas dit que le livre ne me plaisait pas. Bien au contraire, je le trouve très beau, le comportement irréel des personnages va très bien avec l'histoire. Et que si tu avais fait autrement, il y aurait eu un décalage avec l'action fantastique. Je te jure que j'aime le livre, Jules. Il est vraiment très beau. Les réserves que j'ai eues ne sont qu'en d'ordre personnel. Simplement pour te dire que si j'étais l'un des deux héros, je n'aimerais pas le comportement de l'autre. Car, mais le livre, je l'aime. Jules est très triste. Car les deux héros sont eux deux. Mais il le cache pour pas troubler son ami. Il sourit et lui dit : J'en suis heureux que cela te plaise, car si je le fais éditer, j'ai l'intention de te le dédicacer. Merci. J'en suis très flatté, un peu honteux, car je n'en suis pas digne. Je ne suis pas digne qu'on me dédicace un si beau livre. Il fait lire son livre à sa sœur, qui, après l'avoir lu, lui dit : Il a dû s'en passer de drôles de choses durant ce séjour en montagne. Jules est rouge. Elle lui demande : Si une jeune fille l'aimait, elle serait glacée par votre comportement. Jules, fais attention, tu fais fausse route. Il est temps de penser à ton avenir et de vivre comme les autres. Pour cela, tu dois aimer ce que les autres garçons aiment. Il lui dit : C'est bien de toi, ça. Tu es une bourgeoise maintenant ? Avec les idées que tu avais avant, cela m'étonne. Elle lui répond : Je suis toujours la même. C'est pour toi que je le dis. N'oublie pas que tu vas enseigner dans un lycée. Je le sais, mais ma vie privée est à moi. Les jours passent. Après ce que vient de lui dire Apolline, Jules semble gêné et a peur que l'on découvre ce qu'il est vraiment. Alors il décide de ne pas faire publier son livre et de faire attention à ce qu'il fait et dit, surtout devant sa sœur qui semble l'épier. Elle a raison, si mon père apprenait quelque chose et que lorsque je serai au lycée, je dois rester vigilant. Car une fois professeur, je dois être irréprochable. Autrement, c'est la mise à la porte, avec la honte et une sentence. Tout Lyon le saura. Je dois garder mon amour pour Sylvain secret. Sylvain et lui s'entendent bien. Sylvain le prend pour son frère et même mieux, car il lui dit tout. Ils sont bien ensemble. La mère de Sylvain trouve enfin touchante cette amitié. Un soir, elle dit à Jules : J'espère que votre amitié durera toute la vie. Merci, madame. Jules est heureux. Tant pis s'il ne peut dévoiler son amour et qu'elle doit rester à l'intérieur. Avoir des rapports plus intimes physiquement, cela lui est impossible. Il a ce qu'il y a de plus précieux chez Sylvain, son amour, sa foi, sa confiance en lui. Il se donne à Jules sans crainte, presque pure. Le temps passe. Le printemps est enfin arrivé, capricieux, mais il est là. Ouf ! Adieu le grand froid, la neige. Un après-midi, que Sylvain et Jules sont dans la chambre de Sylvain à discuter. On a frappé à la porte. Sylvain dit d'entrer. C'est sa mère qui lui dit : J'ai porté une personne que j'aimerais vous présenter. Sylvain demande : Qui est-ce ? Une personne que tu ne connais pas. Sylvain dit à Gilles : Allez dire bonjour à la personne. Et ils sortent de la chambre pour aller au salon. Là, il trouve une toute jeune fille qui semble grande, mince, blonde, cheveux longs, avec un charmant petit visage, habillée d'une robe bleue, bien sage. La mère de Sylvain fait présentation. Messieurs, je vous présente Patricia Dutheuil. Voici mon fils Sylvain et son ami Jules Beaumandin.
Messieurs, la mère dit,
bon, asseyons-nous et prenons le thé.
Ils s'assoivent, la mère à côté de Patricia, Sylvain en face d'elle. Jules voit avec tristesse que Sylvain dévore des yeux la jeune fille. Il se dit, j'aurai toujours comme concurrence une des filles. La mère leur dit,
Patricia est la fille d'une de mes amies qui est partie en Australie avec ses parents et s'est mariée là-bas. Patricia est née en Australie. Comme elle désire poursuivre ses études, sa mère l'a envoyée en France, et bien entendu à Lyon, puisque c'est son pays où se trouve sa famille. Elle habite chez une vieille tante, pas très loin d'ici, et viendra souvent me voir. J'ai pensé à toi, Sylvain. Puisqu'elle ne connaît personne à Lyon, si tu pouvais la distraire un peu, j'en serais enchanté.
Merci.
Jules est très triste et se dit que sa mère manigance quelque chose. Elle veut peut-être le marier. On ne sait jamais avec les mères. Sylvain demande à la jeune fille,
vous faites quoi comme étude, mademoiselle?
Elle répond,
j'aimerais être professeur de français dans mon pays. Je suis venu ici, c'est pour apprendre plus facilement la langue. Je suis inscrit à l'université.
J'aurais préféré celle de Paris, mais mes parents ont voulu que je sois à Lyon. Sylvain lui dit,
vous verrez, la vie ici est aussi très agréable, moins brillante qu'à Paris, mais tout aussi cultivée.
Vous aimez quoi?
J'aime beaucoup la peinture, la musique, les livres aussi.
Sylvain lui demande,
vous n'aimeriez pas l'électricité aussi?
Qu'est-ce que c'est?
La mère de Sylvain lui dit,
un dada de mon fils. Il fait des expériences de fluides électriques. C'est un bricoleur. L'armoire de sa chambre est pleine de choses bizarres. Il faut bien qu'il s'amuse. Plus tard, il n'aura plus le temps à ces choses.
Une fois que le thé est pris, la jeune fille partit en promettant de revenir bientôt. Sylvain demande à Jules,
comment la trouves-tu ?
Jules hausse ses épaules.
Sylvain lui dit, elle est délicieuse, elle est délicieuse. Et tu as vu les beaux yeux bleus profonds?
Jules se dit tristement,
voilà la chose essentielle. La mère doit être contente, son fils va faire comme tout le monde.
Les jours passent. Chaque fois que Jules voit Sylvain, Sylvain lui parle de Patricia. Elle a dit ceci, elle a fait cela, elle a osé lui dire ceci et cela.
Jules ne dit rien et Sylvain ne se rend pas compte.
Jules est de plus en plus déprimé. Il ne sort voir Sylvain qu'une heure ou deux chez lui. Ils ne sortent plus ensemble. Sylvain sort avec Patricia.
Jules se dit, Sylvain est prisonnier et est dans une toile d'araignée.
Puis, petit à petit, il voit de moins en moins Sylvain.
Un jour, il va chez lui. Il est absent et c'est sa mère qu'il reçoit dans son salon.
Asseyez-vous un moment. Puisque vous êtes venu, vous n'allez pas repartir tout de suite.
Vous êtes le meilleur ami de Sylvain et je vais vous le dire. Je suis très heureuse. Mon fils est tombé amoureux d'une gentille jeune fille. Ils font un très beau couple. Cela fait seulement 3 mois qu'ils ont fait connaissance et ils ne se quittent plus.
Je crois que mon fils va faire sa déclaration. La famille de la jeune fille est d'accord. Nous l'avons souhaité.
Et vous, Jules?
Jules ne dit rien. Elle lui dit,
à vous aussi, cela vous arrivera. Et ne craignez rien. Vous serez toujours son meilleur ami.
Du café?
Oui, merci.
Jules tremble et essaye de cacher son trouble.
Le café brûlant le calme un peu.
Deux jours plus tard, il rencontre Sylvain par hasard dans la rue. Sylvain lui sourit et lui dit « Salut mon vieux, comment vas-tu ? Ça va ? On ne se voit plus ?» Sylvain lui dit « C'est-à-dire que je suis très pris avec Patricia. Nous allons voir des tas de choses. Et puis peut-être que, je ne sais pas, mais nous nous plaisons beaucoup. » Jules a mal et celui qui l'est pris, il lui dit « Si tu veux, on peut marcher un peu dans le parc. » Qui à deux pas, il fait beau. Oui, je veux bien. Ils entrent dans le parc, le grand parc, dit parc de la tête d'or. Il n'y a presque personne dans les allées. Je lui dis, bande, alors, tu veux te marier? Oui. Tu ne trouves pas que c'est un peu rapide? Tu la connais à peine, Sylvain lui dit. Dès que je l'ai vue, j'ai su tout de suite. J'ai ressenti quelque chose pour elle. Je lui dis, mais le mariage c'est quelque chose de sérieux, c'est pour toute la vie. On ne fait pas ça d'un coup de tête, et parce que l'on trouve jolie une personne, tu sais, la beauté ne dure pas toujours. Sylvain lui dit, mais qu'est-ce que tu lui reproches? Elle est gentille, intelligente, sérieuse, issue d'une famille respectable, connue de ma mère. Je ne dis rien. Sylvain lui dit, tu voudrais que je me marie avec qui de mieux? Je n'ai envie de lui dire avec personne. Il lui dit, tu ne trouves pas que ça sent l'arrangement, que tout est fait pour que tu te maries avec elle? Sylvain lui répond, mais si cela est, quelle importance? Je lui dis, ça ne te gêne pas d'être traité comme un pantin? Tu exagères tout de même. Je sais que ma mère serait heureuse de nous voir mariés, mais... De toute façon, tant mieux si mon mariage rend tout le monde heureux. Jules voit qu'il n'y a rien à faire. Il lui dit, tu as raison, je suis ridicule. Je pense à toi comme si tu étais mon frère et je m'inquiète de ton avenir. C'est un peu normal. Sylvain lui sourit et lui dit, tu es gentil. Jules souffre à en mourir. Jour et nuit, pense à Sylvain, qu'il va perdre. Ne peut plus travailler, se distraire, il maigrit, aimerait mourir. Lorsqu'il est avec Sylvain, ce qui est de plus en plus rare, il lui cache son état. Et son ami le voit et lui demande, tu es malade? Je te trouve tout triste. Tristomine, qu'est-ce que tu as? Rien. Un peu fatigué, ce n'est rien. Fais attention, tu devrais voir un médecin. Tu ne le fais pas? Je le ferai. Ce que vient de dire Sylvain chauffe le corps de Jules. Il se dit, il m'aime tout de même, il tient à moi. Il n'est pas tout entier à elle, j'ai une place dans son corps. Il lui dit, je te promets de faire attention à ma santé. 2 mois plus tard, Jules apprend par Sylvain qu'il est invité à une petite soirée qui servira à annoncer ses fiançailles. Je compte sur toi, tu es mon seul ami. Et pour ce qui est du mariage, tu seras mon témoin. Je lui dis, je suis très flatté et fier. Merci. Je t'aime beaucoup et je te souhaite beaucoup de bonheur. La soirée a lieu chez la mère de Sylvain. Il y a quelques parents à la famille et les représentants de la famille de la jeune fille. Un petit orchestre joue quelques airs à la mode. Un buffet pour les amis du gueule et les boissons. Jules et, pour ainsi dire, le seul étranger et ami. Il a décidé, avant de partir, de faire bonne figure. C'est dopé au sucre, antidépressif, et après un verre de bourbon. Lorsqu'il arrive, Sylvain court vers lui, le prend par la taille et le mène à sa fiancée, qui est très belle dans sa robe rose pâle. Jules a chaud au corps à cause de la façon dont Sylvain s'occupe de lui, lui serre le bras. L'on sent qu'il est fier et heureux et tient à lui. Patricia, mon ami, Jules Beaumandin, je crois que vous vous êtes déjà vu. Oui, je me souviens. Enchanté, Sylvain ne fait que parler de vous. La soirée se passe bien. Sylvain présente Jules à tous, le fait boire, manger. Patricia est aux petits soins avec lui. Elle le fait danser plusieurs fois. Jules, avec tous ses gens, toutes ses gentillesses, l'alcool, la bonne humeur, oublie sa tristesse et se laisse aller. Il va partir à 5h du matin. Sylvain lui dit: je tiens, est-ce que nous passons une soirée entre nous, toi, moi et Patricia, pour que tu puisses mieux la connaître? Je lui dis: oui, cela me ferait très plaisir. Je te remercie, cela me ferait très très plaisir. Et il s'en va satisfait de sa soirée. Sylvain a été merveilleux, merveilleux avec lui. Heureusement, le lendemain matin, seul dans sa chambre, ce n'est plus pareil. La joie est partie et la tristesse revenue. Il se dit que dans quelques mois, il sera marié. Une semaine plus tard, Jules reçoit l'invitation à dîner de Sylvain et Patricia. Cela le touche, mais il se demande comment il va se comporter avec la jeune fille. Je n'ai rien à lui dire. Il se présente comme prévu chez eux à 20h, chez la mère de Sylvain. Ils sont partis tous les trois. Sylvain a commandé un repas dans un de ses grands restaurants avec orchestre et services stylés.
Que vous vous installez quelque temps parmi nous en Bourgogne?
Certains. Pensez-vous par rapport à 76.
Il n'est pas formidable.
76 de qui?
Durton.
Ah.
La salle à manger est immense. Il y a des chandelles aux tables recouvertes de nappes blanches, le style de Napoléon III. Un serveur les mène à une table. Jules s'assoit en face du couple. Jules les trouve très beaux. Lui a son costume noir, elle a sa robe crevette. Jules est ému et est ébloui par tout cela. C'est beaucoup trop? Elle lui dit: non, c'est normal, vous êtes le meilleur ami de mon fiancé. Jules se dit, elle parle déjà en son nom. Le repas se passe en se racontant des banalités. Et Sylvain, par comme ami Jules, il ne cesse de mettre sur un piédestal. Il dit à sa fiancée: tu sais que c'est un très bon écrivain? Et sourit et dit à Jules: lorsque j'aurai plus de temps, je vous lire un de vos livres. Il paraît qu'ils sont merveilleux. Ils sont merveilleusement bien écrits. Ils sont appréciés. Je lui dis: il ne faut pas exagérer.
J'ai juste un petit secret d'estime. D'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à les faire publier. Patricia lui dit, c'est parce que les éditeurs ne marchent qu'à la mode. En ce moment, c'est la mode aux petits romans parisiens de mort légère ou à de gros feuilletons à énigmes. Ils ont continué à parler. Tout à coup, Jules voit de petits riens qui font que deux personnes sont des couples, des regards sans se parler, des caresses futiles, des rires pour rien, la façon qu'ils ont de se dévorer des yeux, la façon qu'ils ont de s'isoler de leur invité pour être entre eux, malgré l'intrus. Jules se dit qu'il verrait sera toujours un intrus avec eux. Le troisième, celui qui n'a pas eu de chance parce que pas marié comme eux, qui ne connaît pas le bonheur d'être à deux, celui que l'on invite avec gentillesse et qui se sentira toujours gêné d'être toujours seul avec eux, qui eux font un en deux. Ces gestes, ces intimités auxquelles il n'a pas accès font mal à Jules. Pendant une seconde, il se demande pourquoi il est là.
Et vous restez quelque temps parmi nous en Bourgogne.
Que Sylvain fait déjà plus partie. Il est d'un autre monde où il n'a plus accès. Il en souffre affreusement. Et cette souffrance l'empêche de parler. Et son silence le gêne et lui fait mal. Car il se dit qu'une gêne comme celle-là avec Sylvain, c'est intolérable. Il les voit se regarder. Il a l'impression qu'ils se disent qu'il aimerait mieux être seul, qu'ils ont, que leur béat a assez duré. Eux aussi s'ennuient à cause de lui. Instinctivement, cette tristesse. Cette tristesse de Sylvain, Jules étouffe et. Il a chaud. Il est pris d'une tristesse qui lui serre la gorge. Il sent tout tourner. Il entend Sylvain qui lui dit « Ça ne va pas ?» Il ne peut répondre et se laisse aller. Sylvain court, va vers lui, lui soulève, lui tape les tempes et lui sert un verre de vin. Sylvain lui demande « Ça va mieux ?»« Oui ?» Je suis navré et chacun se remet à sa place. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé parce que Stia lui dit, moi je le sais, c'est l'émotion. Vous êtes ému parce que votre ami va vous laisser. C'est votre peur qui vous laisse. Mais c'est pas parce qu'il se marie qu'il ne vous verra pas. Je ne suis pas comme une de ces. Je suis pas une de ces femmes qui met la bride à son mari. Vous verrez quand vous le désirez, quand vous voudrez. Et le repas se termine calmement. Il se reprend. Puis, il se quitte. Patricia a embrassé Jules. Sylvain l'a pris dans ses bras. Jules, voit très peu ses amis, car ils ont beaucoup à faire. C'est une période triste pour lui, car il apprend leur mariage. Il reste solitaire, ne parle à personne, n'écrit pas. Enfin, le jour du mariage approche. Grande satisfaction chez Beaumandin. Grande agitation aussi. Jules doit se faire un costume pour la cérémonie. Quelle corvée! Les essayages chez le tailleur. Puis il doit acheter le cadeau. Là aussi, quoi acheter? Il a l'impression qu'ils ont besoin de rien. Il décide de leur acheter un tableau qu'il a trouvé chez un marchand de vieux tableaux anciens de qualité. Une vierge à l'enfant de toute beauté du Moyen-Âge, d'un maître des Flandres. Il est très beau, coûte une petite fortune et le peintre est rare et réputé. Ce sera la preuve d'amour pour lui. Le jour du mariage arrive. Tous les Beaumandin sont invités et se lèvent à 6 heures pour se préparer. La cérémonie civile s'est faite d'une façon très émouvante avec les deux témoins et les parents. Jules s'est bien tenu. Il a vu que Sylvain était très ému. Cela l'a fait pleurer en cachette. Patricia aussi s'est très bien tenue, digne et heureuse. Jules essaie de ne pas penser, de ne pas avoir trop mal. Mais malgré lui, c'est le mariage religieux. Aujourd'hui, c'est le mariage religieux. Pour Jules, il a l'impression d'assister à sa mort. Durant la cérémonie, il reste comme paralysé. Pour présenter les félicitations aux invités, il est comme pétrifié. Il ne peut ouvrir la bouche. Ensuite, il y a cet interminable repas. Il y est assis en face des jeunes mariés. Et ne cesse de regarder Sylvain, qui semble au comble du bonheur. Sylvain aussi le regarde, lui lance des clins d'œil et lui dit: t'en fais pas, toi aussi, tu te marieras. Jules sourit. Après le repas, il y aura le bal, qui commencera à 21h. Il faut le temps aux gens de se changer. Jules est allé s'allonger à sa chambre pour se reposer. Surtout ne pas penser, ne pas penser. Car s'il pense, c'est fini pour lui. Il a assisté à un mariage et c'est tout. Le bal va se faire chez la mère de Sylvain et il n'ira qu'à 22h. Il est allé. Pauline le voit, elle lui demande: alors ça va? Pas trop triste qu'il se marie? Il lui hausse ses épaules, elle lui dit: je te comprends, Sylvain est un très joli garçon, c'est normal. Mais que veux-tu? La vie veut que les jolis garçons soient pris par les filles. Elle l'embrasse sur la joue et le quitte. Sylvain et Patricia viennent vers lui. Sylvain lui dit: nous partons. Nous sommes venus te dire au revoir. Jules est très triste. Il leur demande: vous allez où? Ma mère nous offre un voyage en Grèce. Je lui dis: c'est beau. Vous avez de la chance. Patricia l'embrasse et lui dit: nous pensons à toi. nous t'écrirons. Merci, je vous souhaite d'être très heureux et de faire un beau voyage. Sylvain l'embrasse et lui dit « Merci, moi aussi je penserai à toi. Allez, il nous faut partir. » Et il s'éloigne. Plus tard, Jules s'en retourne chez lui, démoralisé. Il passe plusieurs jours tellement démoralisé qu'il reste au lit. Sa mère est allée le voir.
Qu'as-tu ?
Rien. Je suis juste un peu fatigué.
Tu maigris depuis quelque temps. Tu ne manges plus. Tu es malade ou ça ne va pas ?
Non, j'ai besoin de repos et de solitude.
Tu ne veux pas que je fasse venir le docteur ?
Non, merci, pas la peine. Ça va passer.
Bien, je te laisse. Mais si tu ne vas pas mieux, appelle-moi.
Je te le promets. Il ne veut pas penser. Il veut dormir et ne pas rêver. Malheureusement, à cause de la famille, 3 jours plus tard, il est obligé de se lever. Donc il se lève, mais ne fait rien. Reste assis sur une chaise. Il a beau essayer de ne pas penser, l'image de Sylvain lui vient constamment en mémoire. Cela lui fait mal de voir ce beau petit visage. Une semaine après leur départ, il reçoit de leurs nouvelles, lettres gentilles. L'on sent qu'ils sont tous deux à leur joie, mais pensent à lui. Le voyage semble bien se passer. Jules voit que Patricia lui a écrit en bas de lettres. Il trouve cela gentil. Des jours passent. Il reçoit de temps en temps du courrier. Petit à petit, Jules remonte la pente et essaye d'écrire. Un soir, vient le voir sa sœur. Il est déjà couché. Elle a pitié de lui et veut lui faire oublier son chagrin. En tout cas, pendant quelque temps. Alors, elle s'allonge près de lui. Lui fait des caresses et des baisers. Lui, au bout d'un moment, lui en fait aussi. Et arrive ce qui doit arriver. Mais, c'est la dernière fois qu'il le fait.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.